comme elle va. Le silence est un bruit différent des autres, apprivoisé ou surpris, par la main, par l'oreille ou par le cœur. Il change de contour et de noyau selon que la main le retient, que l'oreille est distraite ou que le cœur est amoureux. Écoutez le bruit étrange qu'il réveillera en vous. S'il devient insupportable, si vous ne l'entendez pas ou si cela vous apparaît absurde, ce qui revient au même, lancez un mot dans la page. Ou priez l'un de vos invités de le faire dans sa plus belle calligraphie. Prenez garde alors à l'écho qu'il vous renverra. Par quoi vous saurez si vous avez de l'eau dans votre puits et si c'est une eau potable. Ainsi commence la célébration du silence, que suivent des pages blanches et encore blanches. Vous pouvez poursuivre, si cela vous tente, par la célébration du petit pois, de la mer, du rouge-gorge, du trou, du fromage, des cailloux, du lit, de la sardine, qui sont, avec la célébration du silence et bien d'autres, autant de livres de Robert Morel, éditeur, écrivain, philosophe et poète. Le centre culturel Simone Signoret de Château-Arnoux, dans les Alpes de Haute-Provence, retrace l'itinéraire de Robert Morel, mort en 1990. La vie comme elle va a donc souhaité aujourd'hui vous emmener à la recherche de cet homme, singulier, complexe et passionnant que fut Robert Morel, tout entier voué à l'inventaire, à la célébration et à l'exaltation de la vie quotidienne. Claude Santelli lit un texte de Robert Morel.
6 septembre 1976, après une année de pénitence et de réflexion, de voyage, de discussion en France, en Italie, en Allemagne, en Yougoslavie, en Bulgarie, que la politique, pas mieux que la religion, ne peut sauver ce monde de sa maladie. Il s'est laissé séduire, puis dominé par la technographie, la technique, la technologie, puis la technocratie. Il est évident que la plupart des techniciens, des technologues, ont une intelligence machinale. Une vie prétentieuse. Ce sont des imbéciles. Ils envahissent le monde à tous les niveaux. Ils instituent une nouvelle culture horizontale et uniforme. Ils nous fabriquent un univers laid, vide, froid, mort. Je les accuse de détruire nos âmes.
Le peintre Dragan Dragic.
On a reçu l'invitation pour l'exposition de Château Arnoux. C'était 10 ans de Robert Morel et l'exposition avec tout ce qui a fait les livres. Et on est arrivé à 6 heures et puis point de lumière. Alors, on se posait un petit peu de questions, mais pas trop au départ. Et beaucoup de gens, les gens y arrivaient à mesure du temps passé, 1 heure. Donc de plus, donc 7 heures, 8 heures, toujours pas de lumière. La salle s'est remplie, une grande salle qui est de culture, Simone Signoret, le centre culturel. Et 9 heures, toujours pas de lumière. Alors les gens, ils s'affolaient pas, ils disaient c'est la dernière blague de Robert, en douce comme ça. Bon, on va boire quand même. Alors, il y avait le cocktail était préparé, on s'éclairait par sortie secours, vous voyez, là-haut. Et les gens commençaient d'aller chercher des bougies, ceux qui avaient une petite lampe dans la voiture, ils allaient chercher. Alors, on se penchait un sur l'autre pour se voir qui est là, qui, pour se reconnaître. Et dans les vitrines, les livres, ils étaient exposés dans plusieurs vitrines. Et on regardait ça avec beaucoup d'attention parce que d'abord on voyait pas bien, donc il faut mettre du temps. Et on a trouvé des bougies pour qu'on lise un texte. C'était Claude Santelli. Alors on s'est trouvé dans une petite pièce parce qu'il n'a pas pu lire devant tout le monde. Et l'agent, ils étaient toujours là. C'était 10 heures du soir, de 6 heures à 10 heures, toujours pas de lumière. Toujours pas de lumière, toujours mystère total. On se demandait vraiment qu'est-ce qui se passe. Et Claude Santelli a lu un texte qui était sur Robert et c'était majestueux parce que vraiment le silence, en même temps qu'il n'y a pas de lumière, c'était comme dans une cave. Et là, les gens sont restés toujours jusqu'à la dernière minute. Donc, finalement, certains commençaient à partir, toujours pas de lumière. Et alors, 10h30, Lumière revient, vraiment, je crois que c'était vraiment, vraiment la dernière blague de Robert Morel.
Ça vous plaît beaucoup, ça?
Ah, ça m'a resté, oui. ça restera encore une chose de plus de Robert.
Un clin d'œil. Prenons un arbre. L'arbre grandit, fleurit, fructifie et meurt. Eh bien, si un arbre peut avoir des fleurs et des fruits, les fleurs, c'est le joli côté de la jeunesse. Le fruit, c'est ce qui résume toute la vie. C'est aussi ce qui permet d'avoir d'autres arbres. J'ai toujours voulu avoir des livres fruits. Et les feuilles? Qu'est-ce que c'est les feuilles? Les feuilles, ce sont les œuvres de ceux qui écrivent trop, trop, n'importe comment, sur n'importe quoi. Trop pour se faire voir, pour se faire encenser, pour aussi gagner leur vie. Alors que pour moi, écrire, ce n'est pas du tout cela. Dans ce monde, où tout le monde, dès la dernière sucette, raconte aux foules qu'il s'est curé les ongles ou qu'il a changé de chaussettes, l'avenir ne donnera son intérêt qu'à ceux qui auront gardé un peu de pudeur, qui en auront dit le moins possible. Et cette pudeur de vivant, devenant un mystère pour les survivants, fera que l'on se penchera sur ces cas étranges de gens qui n'étaient pas exhibitionnistes dans un temps où tout le monde l'est. Et c'est toujours le mystère qui a sauvé la mémoire des hommes, donc qui a aidé leur œuvre à survivre. Robert Morel, 9 mai 1965.
Je me rappelle de ta voix. Ta voix chaude comme de la terre au soleil, ta voix vivante et sûre d'elle, ta voix d'homme au plaisir de parler. Je me rappelle ta voix chaude et sensuelle comme de la terre au soleil, ta voix secrète et ta voix présence.
Il y avait des mots qui revenaient plus souvent.
C'était le son de sa voix qui était le mot. Vous savez, il y a des voix qui vous prennent dans les tripes. Et c'est pas vraiment un mot particulier, c'est le son qui donnait à ce qu'il voulait dire, qui était délicieux, quoi, qui vous prenait, c'était bon. C'était vraiment une très très belle voix. Je me rappelle ton vin et ta cave. Tu mettais ton vin en bouteille et ton plaisir de le faire et de faire tes étiquettes, puis de le boire avec tes amis. Je me rappelle que tu as fait une cave à chacun de tes enfants. Et que la mienne est maintenant près de moi, mais les larmes aux yeux. Je me rappelle mon papa avec ses 3 enfants, François, Marie et Ève, et avec Odette. Tous ces moments forts et intenses que nous avons vécus ensemble. Je me rappelle mon papa, qui s'appelait Robert Morel. Il était né le 22 mars 1922, d'une maman qui s'appelait Jeanne, et il est mort le 15 janvier 1990. Et moi, sa fille Marie, je me rappelle de lui, de ses livres et de ses pigeons, et je peins mon souvenir tout simplement.
C'est un peu comme un vin, un livre, un manuscrit. Dès les premiers mots, on sent si c'est un bon vin.
Dès les premiers mots.
On n'est peut-être pas d'accord. Oui, esthétiquement, spirituellement, tout ce que vous voudrez, on n'est peut-être pas d'accord en tant qu'éditeur. Là, il y a 2 positions. Devant un manuscrit, je suis à la fois auteur, lecteur, et puis je suis éditeur. Hein? Le lecteur, quand je suis seulement lecteur, bon ben, j'aime ou j'aime pas. Hein? Ça me touche ou ça me touche pas. Je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Alors que être éditeur, c'est reconnaître une qualité.
Quels sont tout de suite les mots qui vous touchent?
Oh, c'est tout ce qui vient du cœur. C'est tout ce qui vient de la terre. C'est tout ce qui vient du... C'est quand il n'y a pas de chic, quand il n'y a pas de quand il n'y a pas de littérature.
Et quel est le plus beau mot en dehors de la littérature?
Amour, amour.
Voilà frère François, voilà frère Soleil, ils vont nus comme Adam, ils vont sourire aux dents. La vipère est au ciel, l'évangile est au bois, et c'est signé François, François. François des oiseaux, depuis l'âme est en fleur et l'arbre se marie, le latin est en fête, la chanson sort la tête et tous les mots promis ont un sens, ont un cœur, depuis l'âme est en fleur, en fleur, en fleur, en fleur, sans chapeau, en fleur, en fleur, en fleur, sans chapeau, à ce charivari, trapu, ventru, tout cru, rien n'est plus comme avant, la chair, l'os et le vent, et le turlututu, la joie et l'alchimie, à ce charivari. Allez.
Robert Morel est né le 22 mars 1922. Il tenait d'ailleurs beaucoup au chiffre 22. Il est né à Pont-à-Mousson d'un père receveur des postes, non Anne Sauvy.
En tout cas, son grand-père était cordonnier. Et oui, son père receveur des postes. Donc, il a été vraiment dans l'Est au début de sa vie, à Pont-à-Mousson, à Bar-le-Duc, en Haute-Saône. Et il a eu très tôt une vocation littéraire, mais une vocation d'écrivain ou de poète, comme peuvent l'avoir les adolescents. C'est-à-dire qu'il paraît qu'à 13 ans, oui. Et ça je ne l'ai pas retrouvé, il a écrit son premier long poème classique qui a été publié dans une revue de moto. Et il s'est mis à 15 ans à écrire à des écrivains, puisqu'on sait qu'il a écrit à Paul Claudel, à Pierre Segers. Donc à mon avis... Il essayait d'écrire à tous et d'avoir des encouragements et sans doute de percer. Bon, il y a la guerre, il y a l'exode et à ce moment-là, il a quitté sa famille d'une façon sans doute assez décisive. Puis il a un peu circulé et il a abouti à Lyon, donc dans la France de la guerre. Et il a certainement participé à la diffusion de la littérature clandestine. Je ne sais pas s'il a écrit lui-même.
C'est lui qui distribuait les cahiers.
Oui, des petits tracts, des tas de choses. Mais quand on était pris, on pouvait partir en camp de concentration. Donc c'était, bon, ça va bien avec la jeunesse, mais c'était courageux quand même. Et il a été très marqué par la confraternité, l'amitié qui unissait tout le monde. Les communistes, les chrétiens, tous ceux qui résistaient. Ce qui a abouti à la fin de la guerre à un grand désenchantement. Mais entre-temps, il avait commencé à écrire. Son premier livre est paru quand il avait 20 ans, en 1942. C'était sur Saint-Jean-Baptiste. Il avait demandé une préface à Daniel Robs.
L'Annonciateur.
L'Annonciateur, c'est ça. Et le titre lui avait été donné par un prêtre que j'ai retrouvé, qui s'appelait l'abbé Tissot, qui est mort maintenant, mais qui avait été très marqué par le personnage. Alors, il est entré en contact avec René Julliard, qui est l'éditeur, avec Maurice Soudin, avec Raymond Gide, et ça a été de ses auteurs plus tard.
Pendant la guerre, il entre en relation avec Malraux, Max-Paul Fouché,
oui, ça,
Julliard,
oui.
Stanislas Fumé, Loïs Masson, le père de Lubac.
Oui, donc c'était un jeune homme. L'abbé Tissot a raconté la première entrevue qu'il avait eue avec Robert Morel, donc encore presque adolescent, en parlant, je crois, d'une tête de Beethoven. Et il devait avoir une espèce de communicativité de son enthousiasme. Et quand la libération est arrivée, il a été, en un sens, sûrement très heureux au début, et très malheureux de voir ce que ça donnait. Il ressentait un très grand malaise, qu'il y avait des dénonciations, de la délation, toutes ces femmes tondues. Enfin, il devait y avoir des tas de choses qui l'ont heurté, qui l'ont choqué. Il n'en a parlé surtout que dans son livre sur la littérature clandestine et la déception qu'il a éprouvée. Et là-dessus, il est parti très fortement contre Paul Éluard, qui avait écrit ce très beau poème « J'écris ton nom, liberté ». Et il s'est aperçu que Paul Éluard rentrait dans le rang et devenait un revanchiste terrible, et qu'il n'y avait plus que la politique de gauche ou de droite qui jouait, alors que Robert Morel avait rêvé à une grande union, qui est sans doute impossible, mais enfin du moins il l'avait rêvé. Et il a écrit contre Paul Éluard un poème qui s'appelait « Liberté », qu'il a mis dans les trois langues, français, anglais et allemand, il l'a fait traduire, qui était pour dire...
Dans la revue Fontaine.
Oui, et ça a été publié. Il l'a fait partir en avion de Toulouse, en Algérie, ça a été publié en Algérie.
Liberté, liberté, Freiheit. Où serais-je jamais plus libre de ma voix qu'ici, chantant? Car on dit liberté, mes frères, je ne suis qu'ici, libre avec vous à nouveau, dans l'espoir qui dura 4 ans. Pendant le temps que nos pères mouraient, plus ne pouvant, et nos mères serraient les dents, et nos sœurs ne se mariaient, Et nos cousins, la maison, la rivière, s'en sont allés périr à la guerre. Mais à la guerre, on y était. Les salauds, les prisons, les chiens, le feu, les fers, à la guerre, on y était libre. Comme encore pour la liberté d'aimer encore. Et ceux qui mouraient à notre place, pris, parqués, perdus, où mon Dieu sont morts, et nous non. Vous connaissez notre espérance. Hommes et dieux, celle la folle qui nous voit quatre hivers, aux neiges rehaussées de sang. Quand elle rasait les frontières de l'Est et Belgique et Jura, et si nous fûmes gardés vivants, maigres, pauvres et seuls, mon Dieu, ce sera pour chanter deux fois pour leurs cadavres brûlés. Ces cadavres que nous traînons désormais sur nos os, où serai-je jamais plus libre? Ou puis-je m'écrier ailleurs que je hais le massacre et l'arme, et que j'ai fait cette guerre-là avec mon corps et non celui des autres, car je ne peux désirer la mort d'ennemis, ni pour moi la victoire. Je n'ai pas l'âme d'un soldat qui s'accommode à apprendre à tuer. Et je n'ai tué personne. Cette liberté de l'homme est ma liberté. Je crois en Dieu qui créa l'homme à son image. Vous êtes mes frères. Aussi loin que va ma voix et dans l'avenir, je vous aime comme frères. Dans cet amour de l'homme, à la guerre, j'ai fait de la guerre un sacrifice. M'offrant aux souffrances, refusant l'arme, priant pour que le vainqueur soit vaincu. Et c'est ainsi qu'ignorait que de nouveaux bourreaux se levaient en les fils des victimes. Et je déclare que si je meurs à la guerre, au moins n'aurais-je jamais goûté le sang, car il me suffit d'avoir souffert 4 ans, souffert pour la liberté. J'aime libre l'homme. France, le 4 septembre 1944.
Pendant la guerre, Robert Morel, par solidarité, porta l'étoile jaune. Lors de sa dernière conférence, en 1989, il revient sur cette période.
Essayez de me comprendre. Cela nous ramène à plus de 40 ans en arrière. Le nazisme, la France occupée, la résistance, le maquis. L'étoile jaune, j'avais 20 ans, j'étais lorrain. Les juifs étaient d'autant plus mes amis qu'ils étaient persécutés et déportés. Mac Jacob m'écrivait toutes les semaines, et Grandère tous les 3 jours, il faisait son grand livre sur l'Apocalypse. J'avais même accepté un mariage blanc avec la sœur de Georges Loris qui s'éteignait dans un sana de lin, pour qu'elle ne soit pas déportée. Je lisais tous les jours la Bible à haute voix et j'apprenais l'hébreu chez les amis jésuites de Teilhard de Chardin à Fourvière. Je me disais spirituellement sémite. J'écrivais des poèmes en conséquence, une vie de la Sainte Vierge Marie pour dire qu'elle était juive, qu'elle vivait comme une juive. Ce livre fut mis à l'index. Et voilà-t-il pas qu'en 1988, je comprenais que malgré mes actes de bravoure, j'avais été un lâche. La plus belle manière de montrer alors que j'étais l'ami d'Israël, en communion totale avec Israël, aurait été de me faire circoncire. Je n'y avais pas pensé. Et si je l'avais fait, quand les nazis m'ont arrêté quelques jours après avoir quitté Jean Prévost à Champagnole, eh bien je ne serais pas ici, devant vous.
Je me rappelle que tu détestais la violence et la guerre et la haine et le racisme et le mal sur la terre. Et que tu en étais profondément malheureux. Je me rappelle que tu faisais croire que tu étais juif pour être plus près de ceux qui ont souffert. Et j'étais fière de mon papa juif.
En 1944, il a écrit aussi 2 pamphlets contre les bien-pensants.
Oui, il voulait faire bouger un peu l'Église. Il a aussi écrit en 45 un évangile de Judas. Il se sentait un petit peu porté comme ça vers les évangiles, mais il évoquait dans l'évangile de Judas le problème de la trahison, ce qui bien sûr rejoignait la préoccupation qu'il avait eue de l'après-guerre. Et puis en même temps, dans sa vie personnelle, il avait rencontré une jeune fille qui s'appelait Béatrice Gross. Il l'a épousée en 1946.
À Avignon.
À Avignon. Et puis il s'est installé avec elle à Saint-Pierre de Chartreuse. Il vivait à peine de ses livres, ou pas du tout de ses livres. Il était lecteur pour la maison d'édition d'Avignon qui s'appelait Souti. Et il a rencontré à cette occasion Gilbert et Anne-Marie Corot, qui allaient devenir des auteurs et qui étaient aussi chrétiens. Et il y avait toute une communauté comme ça qui se formait déjà en amitié. Et avec eux, il a fait le projet d'une vie des saints. Il a envisagé de faire 12 volumes, mois par mois, et qui seraient jour par jour la vie des saints, en confiant la vie du principal saint de ce jour à des auteurs différents qu'il traiterait d'une façon nouvelle. Et il a eu notamment comme auteur, pour le premier volume, Lanza del Vasto et Daniel Rops. Il s'est adressé à un éditeur qui était bien connu dans le sud de la France, qui était Benjamin Artaud, à Grenoble. Et Artaud a été d'accord, ils ont fait un contrat. Et le premier volume apparu chez Artaud. Il s'est mis à vivre en communauté de couple dans une maison où il faisait une espèce de vœu de pauvreté, puisqu'on a délivré à lui et à sa femme un certificat d'indigence.
C'était dans l'esprit de Saint François d'Assise.
Oui, tout à fait, oui. Et alors, bon, il a eu deux enfants, donc Claire Joie, qui est morte peut-être à un an, elle était née en 47, elle est morte le 29 mars 48. Et en 49, il a eu une autre petite fille qui est morte à la naissance, qu'on a baptisé Marie Deo Gracias. Et il tenait beaucoup à son projet de vie des saints. Pour le deuxième volume, ça a grippé un petit peu. Et il a écrit à Artaud qu'il était prêt à reconsidérer les conditions du contrat. Et Artaud en a profité pour arrêter le contrat. Et en même temps, en 1949, il a rencontré à Lyon Odette Ducard, ce qui a été pour lui une rencontre extrêmement importante. Un coup de foudre, un grand amour, et ils sont partis ensemble vivre à Paris à la fin de l'année 49. Et tout ça, c'était dans une quasi-pauvreté. L'éditeur Vuibert leur avait prêté une dépendance du château de Savigny-sur-Orge et ils sont installés là. Ils ont eu 3 enfants et ils vivaient de très peu de choses, je pense. Ils vivaient de petits articles, de dessins d'Odette Ducard, qui était un peintre et qui avait une qualité d'artiste très grande. Et je crois que sans Odette Ducard, Robert Morel n'aurait pas été Robert Morel. Parce que qu'elle a donné à ses éditions un caractère extrêmement intéressant. Il vivait toujours comme un chrétien très engagé. Il a connu l'abbé Pierre et il s'est occupé des sans-logis.
Oui, il a écrit un plaidoyer préfacé en 54 oui. Par l'abbé Pierre.
Et puis, ils se sont installés à Paris vers 53-54. Il avait toujours ce projet de la vie des saints qui était interrompu depuis un certain temps. Et il a décidé de faire un club de livres, qu'il a appelé Club du Livre Chrétien. Donc, ils ont fait 12 volumes, et c'était sans doute une idée d'Odette Ducard. Ils les ont fait dans une reliure, quand on les met les uns à côté des autres, ça fait comme un arc-en-ciel, c'est très joli. Et du coup, il a commencé à publier un livre sur le dévot Christ de Perpignan et puis les sermons du curé d'Ars. Mmh. Et sans l'avoir vraiment prémédité, il est devenu éditeur.
Le curé d'Ars s'est imprimé dans du papier d'emballage avec deux signets de ficelle.
Oui, c'est ça. C'est imprimé sur du mauvais papier d'emballage. C'est une reliure en toile noire. Il y a deux signets de ficelle.
Les sermons du curé d'Ars. Oui. C'est vrai. Alors c'est ce succès-là qui va lui permettre de développer son entreprise.
Oui, c'est ça.
Je me rappelle mon papa religieux, un peu trop sacré, dis donc. Et tu étais ça aussi, un drôle de papa chrétien et bien croyant. Je me rappelle ta passion des saintes et de la religion, ton goût de Dieu, du Dieu créateur de la terre et surtout ton goût pour les femmes. Je me rappelle les prières que tu inventais pour nous tes enfants et qui étaient des éclats de rire à la vie. Je me rappelle ces belles prières que nous chantions le soir tous ensemble, les Alléluia puissants à la gloire des saints et de tous nos amis. Et ça, c'est vrai qu'avec donc Robert, on chantait très souvent en se couchant déjà. Et il venait nous dire bonsoir et puis il commençait une sorte de, on pourrait dire prière, mais c'est, je ne sais pas si c'est une prière, c'est un chant qui finissait par Alléluia, Alléluia. Et on citait tous les gens qu'on aimait et ça revenait sans arrêt tous les jours, ces chants, pour penser à ceux qu'on aimait.
Elle était là. Elle était là quand Jésus entra. Elle était là quand Jérusalem cria Barabbas. Elle était là quand Jésus tomba. Elle était là quand Jésus dit « Oui, je le suis ». Elle était là quand Jésus tomba pour la seconde fois. Elle était là quand Jésus. Elle était là quand Véronique le regarda. Elle était là quand Marie. Elle était là quand les soldats le piétinèrent. Elle était là. Elle était là quand la rue criait. Elle était là quand la rue pleurait. Elle était là quand la rue se taisait. Elle était là quand le calvaire. Elle était là quand il tomba enfin en haut. Elle était là quand le sang de Jésus. Elle était là quand on mit Jésus en croix. Elle était là quand les saintes femmes. Elle était là quand Jean. Elle était là quand Jésus en croix. Elle était là quand il leur pardonna. Elle était là quand Marie vit mourir son Jésus.
Elle était là quand la nuit avec Robert, la grande entreprise, c'était la communauté d'écrivains pour venir à bout de ces saints de tous les jours. Et alors on se mis à vivre avec lui au Bossé, dans une grande maison. Et puis alors un jour...
Vous allez vivre là-bas, vous, les Corot, Robert,
Pierre-André Benoît, Pierre Leschler, oui, ben voilà, on est une petite communauté. Puis il y a eu ces...
Ça a duré un peu plus d'un an.
Vous vous distribuez le travail en ce qui concerne
grande liberté,
la communauté des saints, enfin les saints de tous les jours. Oui. Comment étaient distribués ces vies de saints à écrire?
Eh bien alors Robert nous écrivait, j'aimerais bien que pour le temps de janvier, vous m'écriviez tel saint, et voilà, etc. Et il nous relançait au cours du mois, oh là là, vous n'avez pas encore écrit ça, je l'attends, voilà, il nous harcelait. Alors.
Bien entendu, pour écrire une vie de saint, sans dire n'importe quoi, il faut avoir sous les yeux les raisons pour lesquelles ils ont été canonisés ou béatifiés. Alors, Robert m'avait suggéré d'acheter le sanctoral des bénédictins de Paris. C'est donc, c'est là, hein, que, historiquement parlant, j'avançais des choses en m'appuyant sur ces bénédictins qui s'étaient consacrés pendant des années à recueillir tous les documents concernant chaque saint. Et après lecture des bénédictins de Paris, instinctivement, nous imaginions ces bienheureux et ces saints transposés aujourd'hui. Et alors, écrire une vie de saint, c'était écrire des choses exactes et en même temps des choses qui permettaient d'imaginer une sainteté identique de nos jours. Et avec toute liberté d'extrapoler, toute liberté de fantasmer et d'ajouter des choses qu'on pensait vraisemblables, mais qui n'étaient pas du tout historiquement prouvées. Autrement dit, c'était autant la recherche de documents authentiques que de la réaction d'un homme du... C'était encore le 20e, à ces vieilles histoires.
La couverture des saints tous les jours, c'est Le Corbusier.
Parce que Robert était en relation avec Le Corbusier.
Oui, il s'aimait beaucoup. Jusqu'à la fin.
Oui. Et Robert allait beaucoup à Ronchamp. Oui, il nous disait qu'il pleurait beaucoup, beaucoup.
Ronchamp, c'était sa Lorraine natale.
Alors là, c'est une vitrine intéressante parce qu'il y a des choses très différentes. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, l'édition du Fiston de Robert Pinget, qui est un livre très, très beau, avec un petit cordon argenté.
À Château-Arnoux, Suzelle Sio.
Et en même temps, des livres de Véronique Philosophe. illustré par Véronique Philosophe dans une manière un peu naïve, avec des dessins quand même assez modernes.
C'est encore au livre chrétien ?
Oui, on est encore dans le club du livre chrétien. Et la continuation de l'engagement politique de Robert, puisqu'il édite le front de l'abbé d'Avesiès, et que cette auteur a été inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État en 1961, puisqu'il prenait la défense des Algériens en pleine guerre d'Algérie, dans ce livre.
Donc et on voit les années qui vont de 53 à 61.
Voilà, avant qu'il s'installe donc au JAS. Et on voit déjà les très belles couvertures d'Odette. Là, on voit, vous voyez, c'est une espèce de papier de verre, l'intérieur des gardes. Là, c'est du papier buvard. Là, c'est de la soie avec dessus une espèce de collage de pierres et de coquillages pour la prière, l'anthologie des prières de tous les temps et de tous les peuples. D'Alfonso Dinola. C'est du sable en fait, c'est une fleur de sable. Et aussi, ils écrivaient déjà à leurs abonnés et ils avaient donc édité cette croix de Pierre Sekeli qu'ils vendaient à leurs abonnés par courrier. La croix de Lourdes, la croix d'Israël, la croix des malades. Et c'est très très beau ces croix.
Croix du moine, la croix des champs, la croix des villes, la croix de Sainte Thérèse. La terre tourne autour de Jésus, un vrai soleil, son vrai soleil. Elle est suspendue à la croix, un peu comme une pomme. Elle survit en conséquence de croix.
Ce sont des croix en fer forgé.
Elle vit autour.
Alors là, on arrive à la fin de la période du livre chrétien, puisque on est dans les années 50, la fin des années 50, et on a le livre de la sortie d'Égypte de Raymond Flegg. On a un très beau livre de Kierkegaard qui s'appelle Diapsalmata, qui est comme une porte ouverte en fait, à deux battants, avec des dessins de Ponce. Il y a le Mélusine de Jean d'Arras, avec des cheveux sur la couverture, comme la chevelure de Mélusine. Là, il y a des choses importantes. Il y a l'introduction à la vie dévote qui se ferme comme une trousse en fait. Le diable. Alors, à propos du diable de l'abbé Denis Griveaux, Une des abonnées de Robert Morel de l'époque nous a dit quand elle l'avait reçu, en fait, c'est un livre qui se ferme avec des boutons pression. Et quand elle l'avait ouvert, il y avait un pétard dedans qui lui a sauté au nez.
Ce qui m'a amené au métier d'éditeur. Oh là là, vous me posez une question. Oh, il faut à la fois répondre simplement, pas faire d'histoire. Au fond, c'est parce que j'étais auteur. Et puis que j'ai voulu exercer ma liberté et que j'ai eu envie de publier des livres de gens que j'aimais. En fait, quand je suis arrivé dans la région, dans une région désertique, on était un peu la télévision des gens qui étaient là. Ils nous regardaient, ils nous laissaient tranquilles, on était en dehors. Et puis un jour, ils nous ont adoptés. Et dès le moment où ils nous ont adoptés, ils se sont conduits avec nous comme ils se conduisent entre eux. Et j'ai pas marché, c'est tout.
Oui, mais quand un paysan regarde le champ du voisin, voit ses méthodes de culture, il comprend tout de suite les vôtres.
Oui, mais c'est dans le coin où nous sommes, le paysan ne regarde pas le voisin pour voir comment il cultive.
Là, il y en a qui retournent peut-être.
Aussi, ils se retournent entre leurs champs de blé.
Et vos livres, est-ce qu'il y a un contact entre justement votre entourage et ce que vous produisez?
On peut toujours raconter des histoires et dire que je publie le livre des herbes, le livre des salades, parce que je suis ici en Haute-Provence, parce que je vis en Haute-Provence, mais en fait j'aurais publié Marie Moron à Paris. Et le livre des bonnes herbes était déjà dans notre programme quand nous étions encore à Paris.
Vous êtes installé depuis combien de temps ici en Provence?
Six ans et quelques jours.
Vous avez combien de livres à votre catalogue?
Je ne sais pas. Au début on les compte, après on compte plus.
Et vous en avez combien en préparation? Alors là vous devez savoir un peu.
Je ne sais pas, on a 2 ans d'avance de travail, ça doit faire une centaine de livres.
Vous passez des commandes où les gens vous apportent
les deux. Leur texte. Et à la fois, il y a des auteurs dont on attend des livres. Il y a des auteurs.
Je me rappelle les pierres du JAS, les pierres du JAS que tu caressais.
Est-ce que vous êtes retournée au JAS?
J'y suis retournée, oui, mais avec difficulté. Et je crois que j'aurais du mal à y retourner encore.
Moi, j'ai pris j'ai pris très peu de photos du jasmin, mais regardez, je vous les ai apportées. Je sais pas si vous allez le... Vous reconnaissez ça?
Oui. J'ai presque de la révolte, parce que j'ai envie de dire, c'est mon arbre. C'est mon arbre, et c'est plus mon arbre. C'est maintenant l'arbre de quelqu'un d'autre. Même si je peux le prendre quand je le vois, mais c'est plus mon petit arbre secret, là. Ouais, moi, j'ai beaucoup de mal à voir les lieux du passé quand les gens sont morts, quand on a passé son enfance dans les lieux et qu'il y a eu tellement de choses fortes. J'ai du mal. J'ai vécu toute mon enfance là, donc avec ses parents complètement fabuleux, et j'ai toujours pensé que c'était irréel. C'était trop fort. Quand je suis redescendue de là et que je suis allée dans la vie normale, j'ai pas vraiment compris. Et je me suis dit aussi que si un jour j'étais enfermée ou en prison, j'avais de quoi rêver. J'avais de quoi être bien avec tout ce que j'avais en moi qui venait de ce lieu.
Il avait quand même toujours eu un attrait vers le midi, il était allé à Avignon, il était allé dans le Gers pendant la guerre. Et donc ils ont décidé de quitter Paris. Et Robert Morel a pris cette décision de partir en pleine campagne.
Parce que c'est en 62, au printemps 62, oui. Ils achètent le Jas. Oui.
Ils ont acheté le Jas, qui était un
dans les Basses-Alpes, c'est-à-dire maintenant les Alpes de Haute-Provence.
Voilà.
Et un mot en ruine. Oui.
Donc il a fallu tout reconstruire. Là, Odette Ducart a dû être très utile, dans un très grand enthousiasme. Et c'était donc près de Fort-Calquier. Et alors, avec tous les problèmes, il fallait mettre l'eau. Ils ont fait un accord avec la municipalité pour avoir la moitié des eaux d'une source. Il fallait faire venir l'électricité. Il fallait bien sûr faire venir le téléphone pour avoir quand même une relation avec le monde. Et là, ça a été le meilleur moment, je pense, de la carrière. C'est-à-dire que les journalistes en ont parlé. C'était extraordinaire, cet éditeur parisien qui se décentralisait, qui partait dans une sorte de désert et créait des livres très originaux. Mais en faisant cette démarche de partir, il s'était quand même marginalisé. Et toujours, il a espéré qu'il aurait un grand succès littéraire, qu'il aurait des prix littéraires, qu'il aurait...
Il nous faudrait un concours ou une connerie comme ça.
Oui, c'est ça, il écrivait, il nous faudrait un concours ou une connerie comme ça. Mais je crois qu'il le désirait avidement. La diffusion, c'est absolument essentiel, et il s'est toute sa vie d'éditeur heurté à ce problème de la diffusion.
Marc-Jean, ici on est au JAS du Revet Saint-Martin.
Oui, le Jas du Revest Saint-Martin, oui.
Ici, on dit le Revest Saint-Martin ou le Revest?
Ah, le Revest, on prononce. Quand on parle de l'URSS.
Vous avez connu les Morel il y a très longtemps?
Oui, j'avais...
Vous ne soyez pas un très vieux monsieur?
J'avais une douzaine d'années quand je les ai rencontrés, oui, effectivement.
Vous avez l'âge du fils François?
Un an près, oui. Nous étions très amis et nous sommes encore. Fort-Calquier.
Et comment vous avez vu les Morel débarquer ici alors?
Oh, tout bêtement, mon père était garagiste à Fort-Calquier.
Ah oui.
Ils vendaient des Citroën et eux, ils avaient des Citroën, une DS et une de chevaux pour Odette. Et donc ils étaient clients et Odette cherchait un copain pour accompagner son fils.
Souvenir du Jas, 1968.
Il y a une barbiche. Elle s'appelle comment? Elle est noire ou elle est rouge? Elle est noire ou elle est rouge? Elle est noire. Marie, j'ai mis un point sur le rouge et ça fait un œil énorme. Marie, elle est marrante ta maison.
Le Morel, comme vous savez, recevait souvent le père Lelong. Et le père Lelong, de retour d'un voyage de Sardaigne, avait pris avec lui deux petits ânes, tout petits. Et Robert Morel...
Zinolo,
Zinola. Oui, hein? Zinello, Zinella.
Ah, voilà.
Et Robert Morel était allé au port chercher le père Lelong. Et puis, il y avait deux ânes à prendre dans le coffre de la déesse. Et ensuite, avec François, on partait sur le dos de ces ânes quand ils sont devenus plus grands, quoi.
Quand ils en sont arrivés au Jas.
Voilà.
Et le Jas, c'est un ensemble architectural qui est représentatif de la région de Forcalquier.
Oh non, non, qui est très particulier au contraire, parce que, comme vous pouvez voir, la qualité de construction au niveau des pierres, et surtout les couvertures en loze. Le Jas est un ensemble, comment dire, rare en Haute-Provence.
Quand les Morel l'ont trouvé, c'était à l'état de ruine?
Partiellement, oui. Je pense que le bâtiment qui est derrière nous, qui est le bâtiment principal, qui était leur maison d'habitation, était au moins couvert. Je sais que Odette avait fait faire plein de travaux à l'intérieur. Mais à côté, on va se déplacer dans le hameau pour voir la partie où étaient les bureaux, si vous voulez, et même l'atelier d'Odette. Là, il y avait vraiment plus que des pierres empilées, quoi. Mais pas très haut.
Vous le savez, on a acheté ce jas il y a 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement, et quand nous l'avons trouvé, il était en ruine totalement. Il y avait des orties, des herbes, plus de murs, enfin c'était la grande misère, et on a commencé à le restaurer petit à petit. Ce que je n'ai absolument pas voulu faire, c'est une reconstitution. Je vais parler de Viollet-le-Duc en disant qu'au 19e siècle, il a saccagé tellement de choses en faisant justement de la reconstitution. Est au XXe siècle, il faut utiliser le béton, le verre, enfin toutes les techniques contemporaines.
Vous êtes architecte maintenant?
Oui, un peu sous l'influence d'Odette quand même. Je le dois à Odette.
On se promène un peu dans le Jas?
Volontiers. Hein? Si vous voulez, on peut descendre cette ruelle et on va aller jusqu'à la petite pièce qui était la cellule, si on peut dire, du père Lelong.
Alors là, c'est la ruelle, vous dites.
Parce que ça une ruelle,
c'est un hameau. Hein,
parce qu'en somme, voilà, c'est un hameau.
Alors eux, ils habitaient cette maison principale.
Oui, oui, oui.
Et il y avait des amis dans les autres maisons ou
dans les
villages voisins, dans les hameaux voisins.
Dans les hameaux voisins. Le hameau du Revest et le hameau de Saint-Martin. Et le hameau de la Blache. Là, il y a toutes sortes de gens qui habitent.
C'est
impressionnant, cette végétation qui a poussé parce que. En 25 ans, vraiment, là, il n'y avait pas de pain, là, il n'y avait rien.
Ça fait combien de temps qu'ils sont partis?
D'ici 73, je crois.
73, oui. Après, la maison a été un peu abandonnée, pillée.
Oui, je crois qu'il y a eu toutes sortes de désordres, mais cette époque-là était bien triste. Ce bâtiment-là, qui est à notre gauche, c'était donc c'est le dos du bâtiment qu'utilisait Odette. Pour la conception des maquettes, pour ces tableaux. Ici, c'est un petit atelier de bricolage.
Je m'arrête là. Oui, je suis heureux. Je suis heureux, je suis bien. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans... Je fais partie des meubles. Je suis un peu comme les meubles. Je crois que les meubles aussi sont bien. On est tous heureux. On est. Je crois que c'est parce que ils font corps avec quelque chose. Ils sont jamais seuls. Et puis, moi, j'aime bien être plusieurs. Je crois que tout le monde a envie d'être plusieurs à la fois. Et c'est pourquoi j'ai demandé des tables doubles. Quand j'en ai assez de travail ici, je deviens un autre. Je travaille là. J'avais demandé aussi devant chaque table de grandes baies ouvertes sur l'extérieur, et puis un mur au soleil complètement fermé, parce que le soleil ici est très dur, et on ne peut pas non plus se laisser distraire ou abattre par le soleil, il faut faire face à quelque chose, et tout le mur du soleil est un mur borgne, qui est libre pour un Mathieu ou pour un dessin d'enfant.
Voilà, la cellule du père Lelong était ici, il y avait l'entrée de la cave était là, droit devant nous. Et à gauche, la cellule du père Lelong. Vous pouvez voir.
C'est là qu'il dormait?
Oui, oui. C'est tout encombré maintenant, mais c'est un tout petit endroit. Là, il était complètement tranquille pour écrire et il n'entendait aucun bruit.
Et où est-ce qu'il faisait la messe?
Ah, ça, on ira voir tout à l'heure, si vous voulez.
Mais là, il n'y avait pas de lumière?
ici, il y a une fenêtre qui
donne sur ici. Une meurtrière.
Une meurtrière.
Oui, c'est bien une cellule de moine, telle qu'on l'imagine. Hein. Il y a des choses qui ont changé.
Oui, il y a des choses qui ont changé, parce que ici, c'était une remise. Moi, quand j'ai connu le Jas au début, il y avait encore des charrettes là, sous cet auvent. Et puis ensuite, Odette a fait des travaux dans ce bâtiment-là, qui était une grande salle, voûtée d'ailleurs. On doit pouvoir apercevoir à travers le vitrage. Et dans cette salle, on était nombreux à travailler sur les 14 composants qui interviennent dans le livre de Louis Masson qui s'appelle La Croix de la Rose Rouge. Donc on était là à découper les tissus, à coller.
Ça se faisait comment, en parlant? Non, les gens étaient très attentifs.
Ah si, on parlait. Ouais. Puis de temps en temps, Odette venait nous dire non, c'est pas la bonne dorure, c'est mal collé, c'est pas droit. C'était très surveillé. Alors là, nous sommes face à la baie vitrée qui était en fait le bureau de Robert Morel. Et quand on était dans son bureau, on était dans l'arbre en fait. Vous voyez cet énorme marronnier. Et pour lui, c'était bien parce que il était assez malheureux l'été parce qu'il craignait la chaleur. Il était lorrain, donc il préférait quand il pleuvait. Et en étant dans l'arbre, il était à l'ombre, en somme, quoi. Puisque vous voyez l'envergure de l'arbre, quoi. Il était complètement dans les feuilles.
L'oiseau Morel.
Voilà.
Hein?
Oui.
Drôle d'oiseau, quand
même. C'est absolument drôle d'oiseau.
Tout au long des murs, j'avais demandé aussi à Odette Ducard de me faire des tables de travail, de manière à pouvoir avoir toujours sous la main aussi bien tous les éléments pour fabriquer nos livres, papier, échantillons de toile, que tous nos dossiers de travail. Rien n'est caché, tout est à l'œil, tout est à la main. Les figuiers, les arbres avaient dévoré les maisons, avaient abattu les murs. Et ici, quand nous sommes arrivés, il n'y avait que des arbres, il y avait des figuiers. Alors on a dégagé tous les figuiers, on en a quand même laissé un prisonnier. J'aime beaucoup les figuiers. C'est un arbre qui fait des figues, comme moi je fais des livres. On m'avait prédit que ce figuier creverait dans ce bureau. On m'avait prédit aussi qu'il était impossible de créer une maison d'édition à 800 km de Paris. Bon, l'édition existe et le figuier aussi.
J'avais quelques images de lui, Marc-Jean, qui vous reste comme ça.
Plein d'images, mais lesquelles évoquer?
La première qui vient pour voir.
Oh, je crois qu'il aimait beaucoup la vie. Et il aimait beaucoup faire de ses mains et tout ce qui gravitait autour, c'est-à-dire tout le travail des artisans, d'où certaines séries de livres sur tout ce qui était la cuisine, tout ce qui était le travail des... dans les célébrations, justement, le travail du bois, le travail des potiers, et lui-même n'hésitait pas à mettre la main à la pâte. Le mur qui est devant nous, là, je l'ai vu faire par Robert Morel lui-même, celui-ci. Là. Il n'avait pas toujours le temps, donc ça mettait plusieurs semaines, plusieurs mois, mais une pierre après l'autre.
Il faisait comme ses confitures.
Voilà, avec le même amour. Et il est bien droit, vous voyez.
Quand on a rencontré la qualité de ces murs, que vraiment je n'avais rencontré nulle part ailleurs, il est évident qu'on a été saisi, séduit par cette chose-là, et on a dit c'est ici qu'il faut vivre.
Comment tu es arrivée chez Morel?
Je venais de passer mon BEPC, j'avais 17 ans, et je suis allée travailler chez Robert.
Oui, parce qu'il recrutait pour...
D'abord à l'emballage, à l'expédition, parce qu'il y avait pas mal de travail. Et donc je suis restée à l'expédition pendant plusieurs années, puisque je m'occupais du fichier des membres actifs. Et on avait donc à chaque sortie de livres, les expéditions à faire. D'abord les abonnés qui recevaient les exemplaires HEC et ensuite bon, les clients, les libraires et tout ça. Il y avait la lettre du JAS tous les mois où on racontait toutes les nouvelles, qui mettait un mot, qui envoyait même des petits cadeaux et tout ça, c'était sympa. Je me souviens d'un docteur du Maroc qui est arrivé un jour, il m'invite au restaurant, qui est arrivé avec deux poteries du Maroc. C'était vraiment sympa.
Robert, il raconte aussi qu'il y avait des abonnés qui lui avaient offert des confitures.
Tout le temps.
Sur les confitures.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup aimé Robert Morel et c'est vrai que le soir où j'ai appris sa disparition, donc j'étais là, je regardais la télé, j'ai pris un coup, quoi. Ça a été l'horreur. Hein. Enfin, moi, ça a été un peu un père pour moi. J'avais 17 ans. On vivait quand même dans un tout petit village qui était presque à l'abandon. On ne voyait personne, il n'y avait pas de voiture qui passait, rien du tout. Les Morel qui débarquent, ça a été... C'est Paris qui arrivait à la campagne, quoi. Elle a deux chevaux d'Odette, la déesse de Robert, le bruit, on les reconnaissait de très loin, quoi. Et puis c'est vrai qu'il était, il avait une gentillesse, quoi. Il avait un cœur, voilà. Il avait le cœur sur la main.
Personne pouvait passer au JAS sans repartir avec un livre.
Tout le temps, les mêmes plaines. Beaucoup, il donnait tout le temps. D'ailleurs, nous, on a eu en tant qu'employés tous ces livres parce que dès qu'un bouquin sortait, il arrivait. Le premier carton, je me souviens, c'était pour les employés, les exemplaires HEC, ils distribuaient. Mais c'est vrai qu'après, l'ambiance n'était plus...
73, non
ça. Voilà, à peu près 73, hein.
Dans une lettre du JAS, il dit, bon, on décide tous de partir, quoi, les 10 maisons, les 10 personnes qui sont là, parce qu'il avait des amis tout autour.
Bien sûr.
Oui. Parce qu'il y a trop de malveillance, on s'en va. Et puis après, petit à petit, ça a périclité. Vous l'avez accompagné dans cette espèce de descente aux enfers, comme ça, un peu.
Oui, tout à fait. Moi, je me souviens même de Robert tout seul. Au JAS, puisqu'Odette était partie. C'était vraiment la catastrophe, quoi. Il me demandait, alors, dès qu'un ami ou quand Odette revenait, il me disait, est-ce que ma grande, parce qu'il m'appelait toujours ma grande, tu peux aller cueillir quelques fleurs, faire un peu de ménage dans la maison, parce qu'il voulait accueillir quelqu'un, quoi. Alors, c'était surtout aller lui chercher des fleurs de chicorée, parce qu'il adorait ça, ces fleurs bleues. Je sais pas si vous connaissez la chicorée. Et voilà.
C'était la chicorée, et Roger, lui, il arrivait. Ça, c'est resté comme souvenir. Il arrivait avec cette fleur qu'on appelle l'œillet de poète. Vous voyez que c'est une fleur sauvage qui est extraordinaire. Et il arrivait, ça, c'était pour Odette.
Les gens fouillaient. Bon, il y avait des livres qui disparaissaient, même dans la grange, dans le dépôt aussi.
Oui, la grange que nous avons vue tout à l'heure, elle n'était pas fermée.
C'était le dépôt où on stockait les bouquins. Il y avait des gens qui entraient et qui se servaient.
Ça lui ressemblait, cette grande confiance, comme ça.
Tout à fait. C'était lui. Puis c'est vrai qu'il travaillait quand même beaucoup, même l'hiver, c'était pas très bien chauffé, faut dire ce qui est, on avait froid. Et dans ce qui a été son dernier bureau, où il disait toujours, le matin à 5h, quand je tape sur ma machine, je vois le père Couton sur la colline en face, la lumière du père Couton qui va à ses moutons. Et c'est vrai qu'à 5h le matin, il était déjà au travail. C'est vraiment un gros travail. Coucher tard, lever tôt... Puis il y avait tellement d'expressions à lui, et il est arrivé, il a été le premier à avoir le téléphone dans le pays. Il a eu le 1, bien sûr, à l'époque, c'était pas la numérotation. Quand même. Et à chaque fois, il appelait, il disait le 1 tout seul à Revest-Saint-Martin. Puis après, il avait connu, il y avait une standardiste qui l'avait repéré la voix au téléphone, et il l'appelait Pomme. Il avait plein de trucs comme ça. C'était original, quand même.
Oui.
Mais vraiment un homme au grand cœur. Quoi. Moi, c'est vrai que c'était un peu mon père. C'était comme mon père. Je me souviens toujours du matin où Robert nous a réunis aux plaines pour nous dire que bon, ben, le tribunal l'avait condamné, quoi, qu'il était en liquidation judiciaire. Et ça fait mal, quoi. Ça a tout cassé.
Ah ouais, c'est sûr. Hein.
Bon, c'est la vie.
Je me rappelle tes cartons pleins de livres. Je me rappelle que tu ne faisais jamais de sport, sauf que de porter des cartons pleins de livres. Je me rappelle tout ce que tu m'as apporté. Je me rappelle l'enfance que toi et maman vous nous avez offerte, et j'en suis si contente. Tu nous faisais aimer la création, les arbres, les fleurs, la terre, la vie, l'amour. Tu nous donnais l'exemple sans arrêt. Je me rappelle qu'il y avait des livres partout, qu'on vivait dans le livre, avec le livre. On en parlait, on en mangeait, on en chiait, le livre était présent. Je me rappelle des livres que tu faisais, qui se créaient. Je me rappelle les papiers, les maquettes, les auteurs, et maman et toi dans vos livres. Je me rappelle que quand on partait en vacances, toi, tu passais ton temps à écrire. Je me rappelle nos vacances et que tu restais tout le temps à écrire dans ton livre blanc couvert de marron. Je me rappelle que tu aimais vivre avec plaisir les sensations de la vie. Tu aimais vivre les choses, manger, dormir, sentir, écouter, créer, jouir. Tu jouissais de la vie perpétuellement et tu clamais ta jouissance.
Donc, à 62,
oui.
Il déménage de Paris, du boulevard Berthier, pour venir s'installer au Jazz sur Veste Saint-Martin. Et les éditions, le Club du Livre Chrétien va prendre le nom des éditions Robert Morel, avec deux choses très importantes. C'est le début de la collection des célébrations dont le Père Lelong est un peu à l'origine, puisqu'il faisait un sermon sur France Culture, je crois d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Et que ces sermons prenant de plus en plus de liberté... Il avait été interdit sur les ondes et il avait proposé à Robert Morel de continuer sous forme de livre. Donc les célébrations, c'est des petits ouvrages carrés qui célèbrent aussi bien le silence que l'asperge, que le pissenlit, que le visage. Et ces célébrations ont donné lieu, elles aussi, à des célébrations sur disque, comme celle du fromage. Il y a 6 ou 7 disques, le fromage, le cirque, le bois par Bernard Clavel. La célébration des putains, mais aussi la célébration Johnny Hallyday. C'est éclectique. La célébration de l'œil.
Tout le monde a connu ces célébrations.
Et il y en a presque ouais. 70. Il y en a beaucoup, en fait. Et la collection Star d'Odette, qui est la collection blanche, dont elle est très, très fière. C'est une collection de littérature. Et le texte, en général, commence sur la page de couverture et finit sur la 4e de couverture.
À la campagne. Que c'est un grand honneur de passer le certificat d'études, que tout le monde va vous envier, qu'ensuite on pourra vraiment entrer dans la vie avec le certificat. C'est quand même pas pareil. On rentrera par la grande porte. Joseph Joliet.
Robert Morel a édité beaucoup de jeunes auteurs et souvent il a pris le risque de publier des premiers textes.
Ah oui, il y a Sorgue.
Bien sûr, il y a L'amant de Mireille Sorgue qui a été un livre exceptionnel et...
Elle est morte avant la publication, oui, juste au moment où il mettait sous presse.
En 67, je crois. Ouais, oui. Elle avait été recommandée à Robert Morel par François Solem. Et là, on a mis en valeur le Saint-Jacob, parce que c'est un livre double qui est magnifique, en fait, et pour lequel Agnès Varda a fait des photos. Le Saint-Jacob, photo inédite d'Agnès Varda. Le texte est de Jean Cabriès. Alors, peut-être que je vais parler d'André de Richaud d'une façon détournée, parce que le vernissage de l'exposition s'est passé dans l'obscurité et il y a eu une panne de courant qui a duré 3 heures, donc les gens regardaient l'exposition à la bougie ou à la torche et j'ai tout de suite pensé à ce que Robert Morel disait d'André de Richaud quand il avait fait une émission à la radio. Il disait pourquoi maintenant est-ce qu'on parle d'André de Richaud, il n'y a plus rien à dire, il fallait en parler quand il était vivant. Et je me suis dit bon, cette inauguration elle vient trop tard et quelque part c'est la reconnaissance officielle, il ne l'a pas eue puisqu'il a attendu des prix qui ne sont pas venus. Il a attendu une reconnaissance et finalement, c'était comme presque pas une punition. Il y a quelque chose de l'ordre de la frustration. On était dans le noir et on ne voyait rien et on sentait qu'il était présent, quoi, qu'il était là. Et c'était à la fois émouvant, crispant et en même temps, je repensais toujours à Oedipe. Je me disais, c'est quand Oedipe est... C'est la cécité d'Oedipe qui lui a rendu sa clairvoyance quelque part. Et c'est vrai que, bon, quand tout a été fini, la lumière est revenue comme si il s'était dit, ça y est, c'est fini.
J'ai reçu un manuscrit qui était un torchon, qui visiblement avait fait le tour de tous les éditeurs parisiens, et qui avait sans doute été refusé. Et puis voilà, c'était Je ne suis pas mort, j'ai publié Je ne suis pas mort. Puis c'est tout, puis je ne peux rien dire d'autre. Parce que c'est dégueulasse. Moi, je trouve que parler de Richaud maintenant, c'est dégueulasse. Comme dit Buñuel, Richaud, 3 étoiles. Hein? En parler, non, il est trop tard. Il fallait en parler quand il fallait en parler. Il n'y a qu'à parler maintenant des poètes maudits d'aujourd'hui, vivants aujourd'hui, qui sont en train de crever aujourd'hui. Qu'on parle de cela, mais Richaud, il n'a pas besoin de toute notre merde. Hein? Il n'en a pas besoin. Il est beaucoup plus grand que tout ce qu'on pourra faire, tout ce qu'on pourra dire sur lui. Il est beaucoup plus grand que ça. Alors zut. Hein? Il y a même des gens qui... Ça les arrangeait de dire qu'il était mort. C'était un personnage encombrant. Vous savez, quand Richaud rentrait dans une librairie, et puis qu'au bout d'un moment, les gens qui étaient dans la librairie lui plaisaient pas, ou que le libraire disait des conneries, il sortait sa quéquette et puis il pissait dans la librairie. Hein? On comprend très bien qu'à ce moment-là, tout le monde était... C'était un homme libre. À cette époque-là, les écrivains étaient des hommes libres. Et il n'y en a plus. Non, c'était un prince. Comme Julia était un aventurier. Ce sont des hommes qui nous manquent.
Et André Trichaud, donc, on a les quelques livres qu'il a édités chez Robert Morel, puisqu'il y en a eu 4. Il y a eu Il n'y a rien compris, il y a eu La douleur, il y a eu le très beau livre qui s'appelle Je ne suis pas mort, avec une couverture magnifique d'Odette qui ressemble à une porte de prison trouée, avec des couvertures noires trouées, en fait. Et
La nuit aveuglante,
ouais, les titres sont magnifiques. Et je crois que c'est comme ça qu'en fait je suis vraiment rentrée dans les livres de Robert Morel, parce qu'au départ c'était quand même une perspective un petit peu encyclopédique, et c'était montré dans une collection publique des livres de lui, mais un des premiers livres que j'ai lu de lui, c'était La douleur d'André Trichaud. Cette vie de guerre continuait tranquillement et en somme calme pour le village. Le pays était séparé du front par toute une France de forêts tranquilles, de villages silencieux et de routes désertées. Il vivait à l'abandon et les plantes sauvages commençaient à envahir ses rues. Les mousses paraissaient pousser plus rapidement qu'auparavant sur les fontaines et la rue faisait de larges plaques irisées sur la pissotière qui se trouve au milieu de la place.
Bien sûr, il fait très doux, mais il y a plein d'années où il y avait, à l'époque où nous sommes, puisque nous sommes en janvier, 20-25 cm de neige. Donc la route n'était pas ouverte depuis le croisement. Vous avez vu le panneau Le Jas. Donc il fallait improviser. Alors faire fonctionner une maison d'édition avec des problèmes de neige, avec tout le courrier. Parce que là, les courriers, c'était par sac entier, évidemment. Les Morel ont eu souvent quelques difficultés, quoi, de ce côté-là.
Aussi du côté de l'eau, de l'électricité.
De l'eau, oui, qui a été coupée. Et puis des gens qui ont, ouais, qui leur ont fait des misères, quelquefois. La belle allée d'allée que nous avons prise en descendant tout à l'heure a été effectivement complètement démolie une année, pendant qu'ils étaient partis en vacances.
C'est comme une infidélité, une maison qui hein?
Alors moi, c'est difficile pour moi, effectivement.
Ah, c'est difficile. Ah,
ouais,
hein?
C'est émouvant, oui, parce que y a toute une vie qui a changé là-dedans. L'utilisation des locaux est différente, donc on reste accroché à des souvenirs, quoi.
Même s'il y a la lauze et la pierre.
Ah oui, oui. L'âme n'est plus la même.
Non.
Choisis ta lettre.
Mais il y en a d'autres. Hein.
63, oui, 62.
Oh là là, cet orage. Non, mais non, j'en ai connu un autre, moi, avec la grêle jusqu'au genou. Quelle horreur. Il pleuvait partout dans le Jas. Lettre du Jas numéro 7, 22 mai 67. Ce matin, à 6 heures, des silhouettes avançaient à pas menus entre le soleil et les fenêtres de mon bureau qui donne à l'est. Je travaillais dans cette paix incomparable des premières heures. C'étaient deux jeunes amoureux récemment mariés qui aiment nos livres et qui venaient respirer nos pierres sans nous déranger. Ils avaient fait 200 kilomètres. Ils assistèrent à la messe célébrée dans la petite chapelle voûtée par le père Lelon qui est venu au Jas commencer le bien croire. Ils petit-déjeunèrent avec nous à la confiture de gratte-cul, celle que je préfère, et s'en allèrent discrètement en déposant 3 bouteilles de leur vignoble sur le seuil. La veille, c'était le docteur Florence qui, arrivant de Tripoli, faisait le détour. Quelques jours plus tôt, Mathieu Bessy, médecin lui aussi, au Maroc, arrivé comme un roi mage avec des cadeaux pour Maryse et Anne-Marie. Vendredi, Agnès Varda, avec qui jadis j'avais réalisé un chemin de croix pour l'église de Fossé dans les Ardennes, où il n'est plus. On peut le voir et s'en servir chez les Dominicains de Nancy, et son mari Jacques Démy. C'est la vie. Je puis vous assurer que nous vivons, que nous n'arrêtons pas de vivre. Merci à tous ceux qui s'en inquiètent.
C'est signé
Robert Morel, éditeur. J'avais oublié le nom de ce docteur qui m'avait rapporté les poteries du Maroc. Ça alors. Mathieu Bessy.
Je crois que pour mon travail à moi, c'est de dresser l'inventaire et exalter la vie quotidienne. L'inventaire de la vie quotidienne, l'exaltation de la vie quotidienne. Alors les soupes, c'est la vie quotidienne, les salades, c'est la vie quotidienne, les bonnes herbes, c'est la vie quotidienne. Et quand je publie une célébration du fromage ou de la chaise, ou quand il s'agit même d'un roman, pour moi, les romans sont aussi une exaltation de la vie quotidienne.
Parce que vous avez aussi le livre des salades, le livre des herbes, le livre de, je crois même des ordures.
Pas encore, non, pas encore. Mais à la foire de Francfort, nous avons présenté nos livres avec des panneaux qui étaient fabriqués à partir d'ordures. Mais d'ordures ménagères qu'on avait ramassées. Ménagères. Il y avait des vieux moulins à café, des vieilles cuillères, des trucs qu'on avait ramassés sur les tas d'ordures des villes de France. Et Odette Ducard nous avait bâti, les avait organisés.
Comme un buffet.
Oui.
Sur lequel étaient dressés les livres. Si.
Parce que les livres sont faits à base d'ordures. C'est la suite de réflexions, c'est la suite de souvenirs, de méditations, donc de quelque chose qu'on a déjà pris ailleurs, qu'on a digéré, mais avant d'être éditeur, quand Julien me publiait, dans le dernier que j'ai publié qui s'appelle Cain, hein, j'ai inventé une soupe. Une soupe avec de la terre. Si, s'il y a de la terre dedans, c'est une soupe préhistorique. Odette, la voilà.
Le 29 avril 69, cette lettre très désenchantée de Robert Morel.
Il a décidé de se diffuser entièrement lui-même et il a écrit une lettre au libraire sur le ton de celle qu'il adressait au lecteur. Maintenant, ça y est, c'est encore mieux, on va travailler main dans la main ensemble. Répondez-moi dès demain. Bon, ça a dû surprendre un petit peu, par une espèce d'enthousiasme un petit peu excessif. Et voilà, et ça n'a pas trop marché. Et alors, à un moment, il a cherché à reprendre la diffusion par Hachette, parce que vraiment, il n'y arrivait plus. Et c'est de toute façon un petit peu ce qu'il a coulé, parce que Hachette lui avait avancé de l'argent qu'il ne récupérait pas. Et puis, Robert Morel était tout sentiment, et une maison d'édition, pour que ça tienne, ça fait pas trop de sentiment. C'est-à-dire qu'ils ont demandé le remboursement de tout l'argent qu'ils avaient avancé.
Des retours.
Or, les retours, c'est pour le désespoir des auteurs, c'est souvent en mauvais état, et c'est pilonné. Donc, Robert Morel, lui, n'avait pas du tout l'intention de pilonner ses livres. Il s'est aperçu, quand ça lui était renvoyé, qu'il ne pouvait pas les remettre en vente. Enfin bon, il y a eu un conflit et il y a eu une liquidation judiciaire.
De mai 73, il a été déclaré après en faillite.
En faillite. Et les livres ont été bloqués en attendant que ça se termine. Donc ça a été une période, voilà, c'était à peu près fini. Et même s'il a essayé de reprendre ensuite...
Il disait, je laisse la main à mon fils François qui a 20 ans et quelques... Alors en 76, et il y a cette lettre désabusée où il dit, excusez-moi du peu, mais voilà pourquoi j'abandonne la place, fatigué et cocu.
Restez le dernier cordonnier, le dernier berger, le dernier curé. La dernière mère de famille, le dernier forestier, le dernier joueur de violon. Je suis leur éditeur. Le travail un peu fou et désordonné, avec quelques claques et quelques couacs, que j'ai conduit depuis 20 ans, ne m'est devenu clairvoyant que depuis quelques mois. Je publiais des livres pour respirer, pour marcher, pour manger, pour regarder, pour entendre, pour aimer. J'appelais cela l'inventaire et l'exaltation de la vie quotidienne. Je ne peux mieux dire aujourd'hui. À la limite, tous les livres que je publierai constitueront un abécédaire. En publiant la création des hommes sous toutes les formes où elle s'exprime, la fourchette, la chaise, la chanson, la poupée, le mensonge, la tarte ou la rose. C'est la dernière et la meilleure manière qui me reste pour inviter chaque homme à en faire autant, là où il est, ou tout au moins l'aider à retrouver une parcelle de son bonheur, de son honneur, détruit ou enseveli, mais qui ne peut pas mourir. La création du monde est continue.
Je lance dans la nuit comme un signe de vie, ami. J'appelle un univers, une force, un mystère de l'air. J'appelle.
Chantal Vieuil.
Un jour, je vais le voir pour faire un tirage de documents. Donc, on était devant une machine photocopieuse dans son bureau. Mais tout d'un coup, je voyais, il disait rien. Je me suis dit, je l'embête. Alors, je lui dis, tu penses à quoi? Et il me dit, je prie. Et ça, cette réponse, je suis restée pétrifiée parce que, mais oui, pourquoi il prierait pas en photocopiant, en appuyant sur le bouton de la machine? Mais il était dans son intériorité, alors qu'il y avait du monde dans son bureau qui ne nous disait rien et qu'il y avait une machine. Vous savez, ce bruit de photocopie qui fait qui n'est pas très agréable. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, il est vraiment avec Dieu tous les jours, tout le temps. Il n'a jamais pensé que Dieu l'avait lâché.
Et cette dernière image de lui au Salon du Livre?
Alors, cette dernière image de lui au Salon du Livre, on est en mars 89, et Robert a pris un stand, un petit stand. Donc, vous voyez, au Salon du Livre, chaque éditeur a sa petite pancarte. Donc, il y avait un stand avec la pancarte Robert Morel, éditeur. Et ça, c'est un souvenir pour moi qui est cruel, douloureux. Mais dans ce stand, il n'y avait plus de livres. Et donc, il avait dit, j'irai au salon, mais je ne mettrai pas de livres. Je n'emporte pas de livres dans ma voiture. Et en revanche, il a mis dans sa voiture un fauteuil d'handicapé moteur. Et il a installé ce fauteuil dans le stand. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que le stand était installé dans une allée. Il y avait plein d'autres éditeurs. C'était pas une allée en bout de salon, c'était une allée passante. Je travaillais pour un autre éditeur à cette époque-là et j'ai emmené plusieurs éditeurs qui l'avaient connu. Je les ai emmenés devant ce stand vide où il y avait une chaise, un fauteuil roulant. Et personne n'a vu ce que moi je voyais, c'est-à-dire la solitude, l'abandon que témoignait cet éditeur en disant « vous m'avez abandonné ». Les gens soit souriaient, soit passaient indifférents. Alors qu'à droite et à gauche de ce stand, bien sûr, il y avait des éditeurs et des livres. Donc ça, c'est une image pour moi qui est douloureuse parce que le monde de l'édition a laissé tomber Robert Morel et la dernière année de sa vie, il a lancé un dernier appel, si j'ose dire, en disant « je viens, mais regardez, je n'ai plus de livres ». Et personne n'a entendu la voix de détresse de cet homme qui, quelques mois plus tard, disait salut à la vie.
Alain Benoît, si on parlait de ce... Comment vous l'avez appelé déjà ?
En disant que Robert Morel, pour moi, et pour beaucoup d'amis, c'est un moine paillard. Un gars qui savait à la fois vivre dans le dénuement, mais somptueux, avec de très peu de choses, mais de très belles choses. Trucs simples, des choses essentielles, disons. Mais quand même paillard, sachant rigoler, sachant boire, sachant, enfin, plein de choses.
Parce qu'il disait toujours qu'il fallait regarder la beauté, hein. C'était important pour lui, la beauté, quand même.
Mais disons qu'il était venu, il avait sans doute quitté Paris un peu exubérante pour venir en Provence un peu austère, et il s'était mis en marche vers une austérité, vers une sérénité, soi-disant, qu'il n'a pas nécessairement trouvé en Provence. Hein.
Chez lui, vous avez publié Les mots du Che.
Oui, Les mots du Che. Les mots de Castro. Il avait créé une collection avec les sermons de Marcel Pagnol, et j'étais chargé à un moment de collecté dans la littérature française et autres d'ailleurs, des sermons, si bien que j'étais en rapport avec Simone de Beauvoir pour trois phrases qui sont dans Une mort très douce, avec Graham Greene pour La puissance et la gloire, enfin plein de gens comme ça qui avaient écrit à un moment quelques phrases d'un sermon.
Qu'est-ce que c'est que ce sermon de Robert Morel ?
c'est pratiquement un des derniers textes importants que Robert, c'est-à-dire un an avant sa mort, son ami Lucien Henry a été assassiné. Et Robert s'est précipité en chaire le jour de l'enterrement pour faire une homélie gigantesque.
Qu'est-ce qu'il dit dans ce sermon? On peut lire quelques pages du sermon, on va les chercher.
Non, il dit entre autres, et si vous avez des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes de cœur, demandez à Saint Lulu son aide. Il vous aidera, il vous fera miracle. En fait, Lulu, c'était un personnage un peu à la Saint-François d'Assise, qui avait su être l'ami de Robert, même avant de se rencontrer physiquement. Par correspondance, il a publié chez Robert quelques ouvrages, entre autres Les Petites Fenêtres.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce Lulu de Fort-Calquier?
Lulu, bêtement, a été assassiné, et donc Robert a voulu se charger de l'homélie d'une manière un peu impromptue. Pas pour lui, mais pour les gens qui étaient dans l'assistance, ça a été un peu étonnant, mais bon, voilà.
C'est étonnant de voir Robert Morel en chair.
Non, il était toujours en chair. Hein. Il était tout le temps en chair. Non, quand il parlait, il était dogmatique. Quoi. Il parlait des choses. Enfin, il avait une voix d'évêque. Hein. D'ailleurs, lui-même, il disait je ne peux supporter que des chaussettes d'évêque. Mais il allait se fournir en chaussures parce que Saint-Sulpice. Enfin, non, il avait l'onctuosité de ça. Il était conscient de ça. Hein.
Il était conscient, oui, de ce côté-là.
Oh oui, bien sûr, il est cultivé. Hein. Non, il est cultivé. Quand il s'est retrouvé au final, disons, quand il s'est retrouvé à l'hôpital de Cavaillon, il avait sous la main la croix, et c'était essentiel pour lui. C'était vital.
Oui, il a écrit des vies de saints. Dans ses débuts, il a écrit beaucoup de vies de saints.
Sa maison s'appelait la maison cardinale. Non, c'est pour lui, c'était la nécessité. La principale préoccupation, c'était ça, c'était Dieu. Alors, Robert avait des tas d'idées. Quand j'allais chez ma tante à Gould, je passais par Gordes, et je voyais un peu Robert dépité, comme ça, on buvait un coup de vin, et subitement, il imaginait des livres. Subitement, il repartait. Il montait devant nous, des maquettes, il dressait des possibilités, des auteurs à contacter, il avait contacté René Char, entre autres. Ça, il s'était reparti, Robert était reparti. Et subitement, on voyait monter le livre. Pratiquement, il était terminé, la reliure était faite. Il nous regardait pauvrement, comme ça, un peu démuni. Et il repliait son idée. Il remballait son image. Et il disait un peu tristement, oh, tout compte fait, je n'ai pas envie de donner cette idée à ce siècle. Et il remballait son livre. C'était terminé. Le rêve était passé. Le livre de Robert, c'est une pensée. Je voudrais que l'on sache que Robert Morel, c'était un gars généreux. Il n'a pas fait fortune dans l'édition. Il se dépouillait. Il voulait mourir nu. Je crois qu'il y est presque arrivé. On ne pouvait pas partir de chez lui sans recevoir vraiment des cajots de livres. C'était un producteur, voilà. Il échangeait le temps qu'on lui accordait avec des livres.
Quand il dit « J'écris ces pages en état de maladie, les mots me viennent mal, je les distribue et je les trie, écrire est mon vrai métier. » Je vois venir la mort avec sérénité si la mort est ce grand cadre carré au centre duquel je dispose mes pauvres os et le ramassis de ma vie. Je ne suis plus capable d'inventer des prières au Dieu du ciel et de la terre, ni de faire des miracles comme tout bon chrétien. Je m'éteins, je m'efface, je le souhaitais, cela est très bien.
Oui, mais en fait, on peut dire jusqu'à la fin de sa vie, en fait, quand il a été hospitalisé les derniers temps, il avait à proximité de son lit un manuscrit, c'était un chemin de croix qu'il voulait composer, écrire. Moi, je lui avais prêté le chemin de croix de Claudel, enfin, plusieurs chemins de croix que j'avais. Il voulait écrire des prières, des poèmes pour chaque station. Donc, il était resté religieux jusqu'à la fin, oui, effectivement. Mmh.
Il y a une lettre d'Odette Ducart, je crois que c'est une lettre du Jas, où elle dit « On est allé aux Hautes-Plaines », c'est où l'édition est partie après, aux Hautes-Plaines de Man, et on avait allumé toutes les lumières. Le bonheur de Robert, ça s'arrête là-dessus.
Oui.
Mmh.
Bon. Mais c'est vrai que le bonheur de Robert, et en plus, Robert en avait beaucoup des bonheurs, parce que... Il vivait tellement en accord avec aussi la nature que c'était simple le bonheur. Il suffisait qu'il y ait des murs Et il était heureux, il disait, allez, on part ramasser des murs, on partait avec des grands paniers, les enfants, les ânes, Odette, moi, tout le monde, et les amis qui étaient là, parce qu'il y avait souvent des amis, on ramassait des murs toute la journée, on en avait plein les mains, plein la bouche, et arrivé à la maison, on préparait des confitures, et Robert était heureux, on était tous heureux d'ailleurs.
Il était joyeux. C'était un gai luron quand il prenait sa déesse, comme ça, quand on dévalait les sentiers, quand on traversait du jazz à Poilich, par exemple, à Rovès des Brousses, voir Jean-Louis Lévy. Enfin, c'était vraiment la fête dans des chemins à peine carrossables, enfin, dans cette belle voiture décapotable, grise, enfin, on faisait un tas de poussière. Enfin, non, c'était la joie, hein, c'était la joie. Une joie austère. On savait être heureux avec une omelette. Bon, disons qu'une omelette, il y avait des truffes. Enfin, c'était des truffes locales, trouvées elles-mêmes le sol. Non, on savait être heureux avec rien. C'était le luxe, quoi, en fait. Le vrai luxe. Il avait subitement voué une passion